Eh bien voilà, c'est le moment d'accueillir donc mon invité Jean-Luc de La Fontaine, qui est propriétaire du gîte, gérant du gîte Alter Ego, Alt, R comme l'air, Ego pour y aller. Bonjour Jean-Luc de La Fontaine.
Bien bonjour Odile, merci pour l'invitation.
Alors aujourd'hui, on va revenir sur ce gîte, éco-gîte, on appelle ça comme ça,
qui est
situé à Marcousse depuis quelques années.
Alors, dans quelques semaines, on va arriver à notre début de notre quatrième année déjà.
Quatrième année. Alors, il a une particularité, ce gîte, puisqu'il est, il a été construit avec des matériaux écologiques.
Tout à fait. Alors, pour la région, il y avait déjà l'une ou l'autre expérimentation qui a été faite. Et ici, on l'a fait peut-être un peu plus connaître ou parler de lui. Et donc, l'idée, c'était que la vue à Marcousse, elle est vraiment exceptionnelle. Et c'était peut-être un peu dommage de mettre là-dessus du béton, des parpaings. Donc, on s'est dit, autant essayer d'être en harmonie avec la nature. Et du coup, on a fait une construction avec que des matériaux écologiques où il y a juste un tout petit peu de ciment pour la brique faîtière. Donc, c'est vraiment minimaliste. Et puis, l'idée aussi, c'est un lieu qui va évidemment servir de lieu de vacances. Mais en même temps, on s'est dit, cette expérience qu'on a connue, parce qu'en plus, on a fait ça en chantier participatif. Et surtout, je n'étais absolument pas du métier. J'étais plutôt costume-cravate. Et du coup, se mettre dans la construction de maison, waouh, c'est quand même un gros truc. Alors, je me suis fait évidemment aider par certaines personnes. Et puis, au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il y a des bénévoles qui sont venus nous aider, puis des professionnels sur des missions spécifiques. Et puis, de là, on s'est dit, tiens, on va faire partager tout ça au travers d'un sort de lieu d'écolage. Et en fait, on est devenu un organisme de formation sur la construction écologique.
Pour revenir à ce chantier participatif, comment ça se passe? Les gens ne sont pas payés, ils viennent pour apprendre en même temps que faire. Comment on recrute?
Alors c'est le principe même. En fait, en France, il y a plein de réseaux, que ce soit Twiza que je représente, mais il y en a encore d'autres. Et ces réseaux, en fait, ils font les liens entre des bénévoles, des porteurs de projets et surtout aussi des professionnels de la construction écologique qui ont surtout comme vocation et l'envie de vouloir transmettre. Donc, il y a beaucoup de professionnels qui disent « Oui, mais ça, c'est mes petits secrets. Je ne vais pas trop les partager parce qu'après, tu deviendras mon futur concurrent. » Et que dans la construction écologique, on se dit « Mais non, si plus on pourra transmettre, mieux ça sera. » Il y aura de toute façon tout le temps des chantiers et on a à foison qu'ils peuvent encore venir demain parce qu'il y a plein de professionnels qui sont disponibles. Et il y a plus en plus de gens aussi qui ont malheureusement un peu plus difficile à construire leur maison, parce que les prix ont augmenté, parce que les terrains sont devenus chers. Et peut-être que de se tourner vers la construction écologique en chantier participatif peut-être être une solution. Alors, il y a la classique, quand on construit une maison, il y a le classique clé sur porte, donc vous attendez gentiment que tout se passe, et puis on verra bien. Et puis, il y a la deuxième étape, ça serait de dire, je vais passer par les entreprises qui vont faire ce qu'on appelle le hors-d'air. Donc, le bâtiment est érigé, mais il y a toutes les finitions à faire. Et toutes les finitions, les gens me disent « Ouais, mais il ne reste plus grand-chose. » Alors, je prends juste chez nous. Le chantier a été relativement vite. On a fait l'ordre d'air en 20 jours. On a encore mis 230 jours pour faire les finitions. Donc, c'est juste un petit peu plus quand même que le pot de peinture. Alors, ce sont les étapes qui ne coûtent pas très cher. Par contre, qui sont très chronophages. Donc, fatalement, si on passe par des professionnels, c'est peut-être là où on peut faire une économie assez notoire sans prendre des risques que la maison va s'écrouler. Et la troisième partie, c'est ce que nous, on a tenté comme expérience, c'est faire l'autoconstruction totale. Et là, on part de petits bâtons d'allumettes, et puis de là, on fait une maison.
Alors, puisqu'on parle d'éco-construction, c'est important aussi une bonne isolation de sa maison, surtout avec ce réchauffement climatique et puis les hivers aussi qui sont très froids. Comment économiser l'énergie? Ça, c'est important aussi, une bonne isolation.
Alors, la première chose que je commencerais peut-être à dire, Odile, c'est la première réflexion, c'est quels sont nos vrais besoins? Alors, si on écoute une célèbre émission avec un animateur de l'immobilier, l'emplacement, 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 et puis on entend les particuliers qui disent « Ah, moi, je veux un salon de 60 mètres carrés. » Et moi, j'aurais peut-être tendance à dire « Mais pour y faire quoi ?» Et du coup, on va commencer vraiment à se poser les bonnes questions et on va s'apercevoir que 60 mètres carrés n'a aucun sens. Mais peut-être que la chambre, 12 mètres carrés, n'a aucun sens non plus parce qu'il sert de lieu de travail ou ci ou là. Et du coup, on va adapter la construction exactement aux besoins. Ça veut dire qu'au centimètre carré près, on aura la maison à la juste taille. Et là, on vient déjà souvent de faire une économie de 20 à 25% déjà du nombre de mètres carrés. C'est quand même incroyable. Et là, ça ne nous a rien coûté, juste un peu de réflexion. Deuxième idée, c'est les énergies. On a des énergies dans la maison pour se chauffer. pour se refroidir quand il fait trop chaud. On a aussi besoin d'énergie pour cuisiner. Et du coup, il y a aussi les fluides, il y a l'eau. Dans l'eau, il y a l'eau qui va rentrer, il y a l'eau qui sort. Et si aussi, là, on avait une réflexion. Je prends un exemple très précis. Si, par exemple, on mettait des bons matériaux, on orientait bien la maison, on avait un arbre pour nous donner de l'ombrage, on va mettre une pergola qui va protéger la grande baie vitrée pour l'été, et comme ça, on ne devra pas être dans le noir. Et l'hiver, la bonne chose, c'est qu'on aura mis une vigne, et la vigne sera partie, et du coup, il y aura toute la lumière qui rentre dans le bâtiment. Donc, ce bâtiment aura besoin de peu d'énergie. Donc, en réfléchissant avec Dame Nature, ben on s'aperçoit que ce bâtiment va coûter moins cher à la consommation et tellement moins cher qu'on pourrait même arriver à zéro. Donc ça, je pense que c'est une belle démarche. Et dans les matériaux écologiques, il y a peut-être quelque chose aussi de très important. Ça va être la proximité des matériaux. Et pour les gens qui ont un peu moins de moyens, il faut avoir un peu plus de bras. Et je prends un exemple, si on prend de la paille, notamment notre paille de lavande qu'on brûle ici encore chaque année, on peut la récupérer près du fermier pour la mettre dans nos murs. Et c'est un isolant d'excellente qualité. Et pour le peu qu'il y a un voisin qui a fait un petit terrassement chez lui ou quoi que ce soit, on va récupérer la terre qu'on va mettre sur les murs. Et du coup, on a des murs qui sont garnis pratiquement gratuitement. Mais ça prendra plus de temps et un peu plus de bras. Donc, il y a vraiment cette équation. Si j'ai un peu plus d'argent ou je suis pressé, il faudra prendre des matériaux, entre guillemets, un peu prêts à l'emploi, mais qui peuvent être écologiques, comme la fibre de bois, la laine de bois. Il y a des matériaux même des briques de chanvre. Donc, il y a tout un tas de possibilités. Il y a des matériaux qu'on peut presque façonner sur place. Par exemple, on pourrait faire un atelier où on va faire des briques de terre crue. Waouh! Alors qu'on peut le faire avec une petite machine, mais on peut aussi le faire avec un petit coffrage de bois et ça peut être un jeu ludique pendant l'année avant qu'on construise, en attendant le permis de construire, on peut déjà faire ces briques. Et c'est de la terre locale, donc là je crois qu'on a quelque chose de génial et économiquement qui ne coûte pas très cher.
Est-ce qu'on parle d'abord de « je bâtis ma maison », ce qui est donc quelque chose que vous faites en parallèle des formations ?
Tout à fait. Donc, je bâtis ma maison. L'idée, c'est qu'on s'est aperçu que construire une maison, franchement, c'est très facile, contrairement à ce que les gens pensent. Par contre, ce qui est beaucoup plus dur, c'est de trouver les bonnes informations et d'être bien encadré. Et donc, on a créé cet organisme de formation pour toute la conception de la maison. Une fois qu'on l'a conçue, on va déposer un permis de construire, c'est logique, et puis on passera à la phase de construction. Et là, la phase de construction, on a parlé tout à l'heure, avec un réseau comme Twiza, hop, on est entouré. Et ça se passe très très bien, ou avec des professionnels locaux, il y a des gens très très bien dans la région qui commencent à utiliser matériaux géo et biosourcés, donc ça se passe très bien aussi. Donc là on a la conception, on y a pensé, et après on l'a fait la façon. Par contre les gens ils disent, oui mais moi un chantier participatif, je ne sais pas trop ce que c'est, est-ce que c'est chouette d'avoir des bénévoles sur mon terrain ou quoi que ce soit, et est-ce que je serais capable de déléguer certaines choses, parce que construire une maison, d'abord c'est se construire soi un petit peu. Et d'un autre côté, est-ce qu'on va laisser la main aux bénévoles à faire des choses intéressantes et pas à faire simplement des tâches de manœuvre ? Et ce que j'ai toujours à les porteurs de projets, quand vous faites un projet de construction, vous êtes le bénévole ou le manœuvre de vos bénévoles. Et ce que je veux dire par là, c'est que pendant que je fais quelque chose de préparation, eux, ils vont utiliser le produit. Par exemple, si j'ai fait un mélange de terre pour appliquer au mur, j'ai fait le brassin, je leur apporte la gamelle et eux vont gentiment s'amuser à l'étendre sur le mur. Mais pendant ce temps-là, moi, je suis disponible. Je vois que Étienne, il n'a pas tout à fait le bon geste. Je peux un peu le corriger. Je vois qu'Isabelle est un peu embêtée. Donc, je peux peut-être lui dire, écoute, si tu fais ça comme ça, ce sera plus facile. Tu auras moins de difficultés. Et comme ça, en se montrant disponible, eux apprennent beaucoup plus. Et généralement, fin de journée, les bénévoles viennent vous trouver en disant, va t'amuser aussi un petit peu. C'est nous qui allons faire le prochain mélange. Et c'est ça la complicité. Et pour faire cet apprentissage, avant de se lancer dans une maison complète, moi, je pense, et je dis toujours aux gens, sur le réseau Twiza, il y a plus de 300-400 chantiers à l'heure actuelle qui sont ouverts. Allez faire une semaine de chantier participatif sur une technique qui vous intéresse. Là, peut-être, où il y a un professionnel, justement, de cette technique pour donner le bon geste. Vivez l'expérience. Voyez ce que ça donne. Et je vous assure qu'aller sur un chantier, c'est autre chose que simplement donner un peu de sueur. D'abord, vous allez apprendre des choses. Vous allez faire des connaissances avec des personnes. Depuis qu'on a fait le chantier, on a eu plus de 60 bénévoles sur notre chantier. Ils reviennent régulièrement chez nous, dire un bonjour et voir l'évolution des travaux. Et puis, on s'échange des mails, des WhatsApp. Mais je trouve ça, il y a vraiment une genre de famille qui s'est liée parce qu'ils sont venus, ils étaient une petite partie de notre histoire, et notre histoire n'est là que parce qu'eux étaient là à un moment donné.
Jean-Luc de la Fontaine, on va parler maintenant de ce gîte halte, comme pour faire une halte, bien sûr. Air, l'air qu'on respire, ego pour dire de venir, d'y aller. Vous dites c'est bien plus qu'un lieu de vacances, ce gîte.
Alors, on a parlé à 2 secondes, ça peut être aussi un lieu de formation, mais surtout, depuis le début, on a fait énormément d'investissements et de recherches pour l'adapter aux personnes, je dirais, à mobilité réduite, ou bien, mon épouse aime bien appeler les gens qui ont un handicap, de quelque nature que ce soit, des personnes extraordinaires. Et je pense que si on dissocie deux mots, on s'aperçoit que c'est vous et moi, en fin de compte. Et ici, ça fait des mois qu'on est en préparation d'un projet. Alors, ça va être un week-end expérimental. On a 4 binômes, donc 8 personnes, avec des 4 aidants et 4 aidés, qui viennent avec des handicaps divers et variés. Et on a surtout 4 éducatrices spécialisées qui vont offrir tout un tas de services ce week-end-ci. C'est pour nous l'occasion d'expérimenter avec eux, de voir aussi s'il y a des petits réglages à faire dans les animations qu'on propose durant ces jours d'aidants aidés. Et je pense... Après ça, une fois qu'on aura bien fait les petits réglages, ben les gens qui viendraient chez nous en vacances, tout simplement pour un moment de répit, parce qu'être aidant, ce n'est pas facile, et qu'il y a aussi beaucoup d'aidants plutôt, qui n'osent pas prendre un moment de répit pour eux, parce qu'ils vont s'en vouloir, tout simplement, parce qu'ils ont pris du temps pour eux, ils disent « mais qu'est-ce que va venir mon aider ce week-end-là » et quoi que ce soit. Et ici, on propose au binôme de venir. Et à un moment donné, il y aura une activité qui sera proposée à l'aider et une activité à l'aidant. Et du coup, il n'y aura pas cette notion de culpabilisation. Et ça, c'est une notion qu'on entend mais énormément. Et le fait de pouvoir avoir des activités aussi bien pour l'un que pour l'autre va vraiment donner ce moment où on peut dire « ça y est, je viens et je souffle un petit peu ». Et puis là, en plus des 4 éducatrices spécialisées avec différentes spécialités, on a Handisport qui se lie à nous aussi. Et donc, on va faire des activités, bien entendu, au gîte, autour du gîte, avec des petites promenades, des choses ainsi, en fonction aussi de la météo. Et le dimanche matin, on partira à Baigne, parce que là, j'ai Catherine qui s'occupe d'une animation un peu particulière. Elle fait de la médiation équine. Et là, ben, on ne peut pas prendre tous les binômes à la fois, puisque l'idée, ben, c'est simplement d'avoir une relation entre la personne et le cheval. Et pendant ce temps-là, ben, Alain va simplement s'occuper à faire plein d'activités. Alors, il y aura un parcours en joëlette, il y aura de la fléchette. Et ça permettra aussi de voir qu'il y a d'autres activités où, malgré son handicap, qu'on peut arriver à faire.
Donc ça, ce sera ce dimanche, en fonction de la météo, bien
sûr. Ça, c'est ce week-end-ci. Donc là, malheureusement, c'est un week-end privatif, puisque les binômes, on va laisser tranquille pour qu'ils puissent souffler. Par contre, ce que je vous propose... Tout ce week-end-ci, il y aura des caméras de tous les côtés, avec évidemment l'agrément de tous les binômes, et on va vous faire partager ça en léger différé, alors sur le site, pour y voir les capsules, parce que si vous voyez par exemple sur un site internet, la joëlette, ben, tout le monde ne sait pas spécialement ce que c'est. Et là, on va voir aussi la joëlette, mais vue par quelqu'un qui est porteur d'handicap, quelqu'un qui ne l'est pas, qui va voir les deux rôles, il va être dedans, et il va porter. Et c'est gai aussi de voir après le ressenti des gens, parce que c'est ça la transmission. On avait la transmission de savoir tout à l'heure dans la construction, et ici, elle a savoir la transmission, parce que comprendre le handicap de l'autre, c'est déjà l'accepter.
Alors nous, la Joëlette sur Fréquence Mistral, on sait bien ce que c'est, puisqu'on a eu la chance de recevoir très souvent Jean-Louis Caribou dans Handicap Évasion et qui a accompagné beaucoup de sorties en montagne avec cette fameuse Joëlette, donc construite par un Joël il y a de nombreuses années, je ne sais pas si c'est 20 ou 30 ans en tout cas, et qui permet donc ces deux roues, je crois. Ça fait comme
alors,
un brancard sur...
C'est un peu le principe des triporteurs qu'il y avait à l'époque pour la noblesse. Et ici, ben, le handicapé, on le met au niveau de la noblesse. Donc, je trouve ça vraiment fantastique.
Donc, ça permet d'être en pleine nature, dans des lieux magiques. Et en même temps, il faut faire confiance à la personne qui... il faut une personne à l'avant, une personne à l'arrière ou...
Tout à fait.
Ouais. Voilà.
Mais le principe, c'est vraiment le lâcher-prise.
Mm-hmm.
Et ce lâcher-prise, il peut être mis ici au niveau de la joëlette. Ça peut être pareil avec le cheval. Parce que quand vous voyez un cheval de 400-500 kg qui se rapproche de vous, et ça fait quand même peur. Pareil, on est dans le rapport de confiance. Et c'est là où les choses peuvent se passer au niveau des émotions. Et c'est là où ben, notre week-end prend tout son sens aussi.
Donc là, vous dites que c'est privé, mais ça va être une expérience qui va se renouveler régulièrement ou...
Alors, très simplement, après, puisqu'on est un lieu de vacances, mais sur le site alterego.com, il y a un onglet qui s'appelle « Séjour répit ». Donc, on n'a pas été très original. Et là, ben, vous réservez d'abord votre séjour et après, vous allez réserver les activités que vous voulez faire. Et si vous voyez, par exemple, un nom, ben, on vient d'en parler, la Joëlette, mais vous ne savez pas trop ce que c'est parce que vous n'êtes pas de la région, vous êtes plutôt du côté de Paris ou dans le Nord. Et du coup, ben, là, vous allez cliquer sur la petite vidéo et vous aurez des vidéos de captation de l'ensemble des activités qu'on va proposer lors de ce week-end-ci. Donc ici, en fait, c'est un aboutissement pour nous de plus de 4 mois de travail ce week-end, mais en fait, ce n'est qu'un point de départ.
Jean-Luc de La Fontaine, merci. Est-ce qu'on a oublié de dire quelque chose ?
Eh bien, tout juste pour ceux qui n'ont pas l'occasion de venir à ce week-end, parce que tout simplement c'est un week-end un peu privatif, le week-end prochain, c'est-à-dire le 4 et 5 avril, mm-hmm. on organise des visites de notre gîte dans le cadre des portes ouvertes du réseau Twiza. Alors, ces visites se font sur rendez-vous, tout simplement parce qu'on fait des visites et comme ça on peut échanger tous ensemble, et c'est bien ben, qu'on ait le tour en même temps. Alors, le vendredi 4 avril, ça sera à 18h. Le samedi 5 avril, il y a une première visite à 10h du matin et l'autre visite sera à 13h. Alors, c'est l'occasion de visiter le gîte, de parler un peu d'éco-construction, de parler probablement de votre projet ou tout simplement, ben, vous êtes de la région, vous êtes intéressé par un séjour répit et vous dites, ben, je voudrais voir le lieu, comment il est. Donc, c'est l'occasion de venir jusque Marcoux. Alors, on n'est pas très, très loin et puis c'est l'occasion de venir faire un petit tour chez nous.
Donc, il vaut mieux téléphoner ?
Alors, c'est mieux de téléphoner tout simplement parce que si, bah, imaginons qu'à 10h du matin, il y a déjà trop de monde, bah, à ce moment-là, gentiment, je mettrai à 1h. Et s'il y a encore trop de monde, bah, c'est l'occasion aussi de mettre peut-être une troisième visite en place.
Est-ce que vous pouvez nous laisser un numéro de téléphone ?
Bien sûr, le 06 60 12 83 11.
Voilà, donc ça, c'est pour éventuellement ces journées portes ouvertes. Et puis aussi, peut-être, pour en savoir plus, aller sur le site pour faire des réservations.
Tout à fait. Donc, il y a deux sites. Un plutôt lié à l'ensemble des activités, c'est-à-dire au bâtiment lui-même. Donc, c'est alterego, j'insiste bien, R, c'est AIR.com. Et le deuxième, c'est jebâtimamaison.com. Et donc, sinon, vous me téléphonez avec beaucoup, beaucoup de plaisir. On vous partagera tout ça.
Merci Jean-Luc de La Fontaine et à bientôt.
Merci, à bientôt Odile.
Au revoir.